Un petit mot juste sur l'interprofession houblon. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir des organisations agricoles qui structurent l'ensemble de la filière, de la production vers jusqu'à la transformation et la vente aux consommateurs. Ça permet de mettre tout le monde autour d'une table et de décider de ce qu'on va pouvoir développer de façon agricole pour répondre aux attentes que vous rencontrez auprès des consommateurs. Et tout le monde va mettre dans un pot commun pour pouvoir mener des projets de recherche et développement, de communication sur le houblon. Donc l'interprofession représente aujourd'hui les producteurs de houblon, les négociants de houblon français, pour cette association pour laquelle j'interviens, donc l'Association française de négoce du houblon, la FNH, et ainsi que les deux syndicats aujourd'hui de brasseurs. Mais c'est des choses qui ne sont pas figées dans le marbre. Donc il y a d'autres dans ces trois collèges, il peut y avoir d'autres intervenants qui peuvent rentrer dans cette interprofession. L'idée, c'est d'avoir de rendre le houblon français compétitif. Et on attaque donc cet atelier, cette présentation, cette conférence sur tout d'abord l'ingrédient. Le houblon, c'est une plante sauvage au départ qu'on a domestiquée. On va le planter en ligne et on va le faire le monter le long d'un fil de façon à ce qu'il puisse pousser de façon saine et également à ce qu'on puisse récolter les fruits issus de cette plante. On va en recherche, on va essayer de faire en sorte que cette plante corresponde aux besoins que vous, transformateurs, vous allez vouloir avoir. Et aujourd'hui, pour l'instant, c'est une plante qui est principalement utilisée en brasserie, en herboristerie et en cosmétique. Et il y a ici et là depuis longtemps, mais de plus en plus, des distilleries qui l'utilisent pour compléter leur profil aromatique selon les produits qui sont déterminés. Ghislain, tu nous en parleras un peu plus. Et donc, pourquoi on va utiliser le houblon? C'est parce que dans ce fruit, c'est sous la forme d'un cône, c'est sur la slide d'après, nous allons avoir à l'intérieur un large panel d'arômes que je vais vous décrire dans cette présentation et qui va vous permettre d'approfondir l'aspect gustatif de votre produit et également de vous distinguer en ajoutant cet ingrédient dans vos productions. Et c'est également un ingrédient qui vient compléter. Il peut être le produit star, comme dans les nouvelles bières IPA, ou il peut très bien se marier avec d'autres épices, d'autres fruits, d'autres herbes. Et c'est pour ça que c'est un très bon parti. Donc vous avez cette coupe de cône de houblon, voilà, c'est à la taille d'un pouce à peu près, et généralement un peu plus petit, de façon à ce qu'on puisse le sécher. Vous avez la composition qui est à droite, et ce qui va vous intéresser principalement, c'est contenu dans les huiles essentielles, c'est là où sont contenus les arômes du houblon. On va voir que c'est assez divers comme arôme. Et il y a également des résines qu'on va utiliser en brasserie pour donner des résines qui vont, avec la chaleur, s'isomériser et qui vont donner un aspect, un côté amer, donc du coup à la bière. En distillerie, je suppose que tu approfondiras le sujet.
Oui, je parlerai un peu plus du gin et de la vodka. Au Ninkasi, on utilise des houblons depuis 2012 pour aromatiser notre vodka et gin. On a aussi une gamme de soda depuis 4 ans environ. Donc on utilise aussi les houblons dans les sodas. Limonade, cola, tonic et ginger ale aussi. Je vous parlerai de tout ça.
Voilà, on approfondit donc les arômes de ces produits grâce au houblon. Et vous avez également d'autres aspects type polyphénol et matière pectique qui vont être peut-être intéressants également dans des produits distillés ou macérés. Globalement, on a donc dans ces huiles essentielles, sur un cône séché, parce que le cône, on va le récolter, il va être très humide, 80% d'humidité à cœur. Du fruit, on va le faire sécher en dessous de 10%. Et donc là, on avait juste avant la répartition en cône séchée, et on va là un peu plus s'intéresser aux 0,5 à 4% d'huile essentielle qui est à l'intérieur, qui va contenir notamment des terpènes. Les terpènes, ça va vous permettre d'avoir des odeurs, des arômes et certaines saveurs. Et on va également avoir différents goûts nécessairement qui vont se développer. Et elles vont être très diverses. On va être sur de l'agrume, sur du floral, sur de l'herbacé. Et vous allez avoir, ce qui est important de comprendre, c'est que comme on a domestiqué cette plante, on a fait de la recherche agronomique pour croiser différentes variétés de houblon et obtenir des résultats qui vont plus dans le sens qu'on nous demande. Donc soit plus de résine, soit plus d'huile essentielle. Et dans ces huiles essentielles, certains terpènes plus prononcés que d'autres. Alors on ne va pas chercher spécifiquement le terpène, mais plutôt une famille d'arômes. Et donc en abscisse, vous avez des variétés ici. Et après, leurs coefficients qui vous permettent de voir quelle variété là va être plus ou moins expressive par rapport à d'autres. Et donc ces terpènes vont pouvoir vous apporter soit un côté agrume, soit un côté floral, un côté herbacé. Ça, c'est des choses qu'on arrive facilement à analyser, facilement à vous fournir, de façon à vous aider à construire vos recettes. On a également des esters. Cette slide résume assez bien ce que c'est qu'un ester. Et c'est des composés libres comme les terpènes. Enfin, pour la plupart, sont des composés libres. Et les esters, c'est pareil, ils vont pouvoir vous apporter encore approfondir d'autres arômes, réagir différemment avec le milieu dans lequel ils sont plongés. Aujourd'hui, en Europe, en France particulièrement, on arrive facilement à vous donner ces informations sur les esters et les composés libres. Après, il y a également, comme dans le vin, c'est un peu plus compliqué pour les houblons, on est en train de travailler sur le 1% des huiles essentielles qui sont des composés soufrés et qui, eux, sont des thiols. Donc c'est un atome de carbone qui va être lié à un atome qui va vous donner du goût. Et avec un travail enzymatique, notamment amylaglucosidase, on va casser cette double liaison en enlevant le côté carboné et on va pouvoir libérer des composés fortement aromatiques que sont les thiols. Et là, tu travailles dessus après.
Pardon ?
Et là, tu vas pouvoir travailler
oui, bien
sur ces produits.
Toute la palette d'huiles essentielles et jouer avec les variétés des houblons. Pardon ?
Peut-être nous en dire plus sur ce que vous faites, vous, avec le houblon.
Ben évidemment, on a fait des tests, donc avec un alambic pilote. On a un alambic qui permet de faire des tests sur un volume de 25 litres, 25 à 30 litres. Pour ces tests, on va en fait jouer sur la concentration. On va évidemment monter très fort en grammage par litre des houblons, pour ensuite réduire avec de l'eau en dégustation pour ouvrir la palette aromatique. Et on va jouer sur les variétés de houblons, comme tu l'as dit, en fonction des profils recherchés. Avec mon expérience, les tests qu'on a faits étaient plutôt quand même portés sur le herbacé, tout ce qui est résineux. Les côtés agrumes dans l'alcool, enfin dans les spiritueux, ressort un peu moins, je trouve. Il ne faut pas aller trop loin dans les macérations pour pas évidemment extraire trop de composés amers qui peuvent apporter de l'astringence. Ouais. Voilà. Après.
Effectivement, ouais, on généralement dans les produits qu'on a du houblon, c'est un cône. Après le cône, on va le transformer. Enfin, on va vouloir récupérer la lupuline dans le processus. Généralement, avant, on utilisait le cône entier. Maintenant, depuis une quarantaine d'années, on a commencé à le broyer pour le pelletiser, gagner de la place. Donc, on a toujours beaucoup de matière végétale et ce faible pourcentage d'huile essentielle. Et donc, quand vous allez l'utiliser en produit cône pelé, vous allez avoir beaucoup de matière végétale. Et là, cette matière végétale, notamment les polyphénols qui sont dedans, et les acides amers, d'une certaine façon, vont vous apporter de l'astringence. C'est principalement les polyphénols qui sont entre 1 et 4% du volume de pois sec, ce qui n'est pas négligeable et ça peut déranger. Après, ce qu'on va faire, notamment pour des houblonnages à froid en brasserie, on va commencer dans l'industrie du houblon, on va commencer à chercher des produits, on va écarter cette matière végétale et fournir soit des huiles essentielles qu'on va généralement diluer avec un solvant, soit avec des extraits qu'on va resolubiliser. Du coup, vous avez soit des extraits avec des résines et des huiles essentielles, soit que les huiles essentielles. Et du coup, ça évite d'avoir l'astringence. Et je pense que dans ton process, du coup, tu as parlé du pilote. Il y a beaucoup de tests à faire pouvoir développer la recette.
Presque tous les jours, en fait, on a été amené à faire des tests sur l'alambic pilote. Donc, en partant, par exemple, on va partir avec 500 grammes. On va réduire. Pardon. Comme ça, c'est bon ? Ouais. Donc, en réduisant les quantités, on goûte le lendemain, on réduit avec de l'eau et on est amené voilà, à éliminer certains houblons qui ne nous ont pas plu ou certains où on va être obligé de mettre plus de quantité de houblons pour faire ressortir les arômes. Ouais.
N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Moi, j'ai peut-être, Ghislain, une question. Oui. C'est donc aujourd'hui, vous l'utilisez sur le gin.
Gin et vodka, oui.
Gin et vodka.
La vodka, oui.
Ok. Est-ce que c'est une démarche parce que Ninkasi fait de la bière et du coup c'était naturel de l'introduire ou est-ce qu'il y a une démarche différente ?
Il y a eu une priorité marketing aussi au début, puisqu'évidemment pour faire du whisky il faut 3 ans de vieillissement et il a fallu sortir des alcools blancs pour commencer à vendre un peu des bouteilles de spiritueux. Donc on a commencé par la vodka en premier, il n'y a pas de vieillissement sur la vodka. Donc on faisait juste une macération et une distillation lente de la vodka. Ensuite on a rapidement construit notre recette de gin également, avec un sirotier de la région lyonnaise qui s'appelle Crozet à Tizy. Et donc avec les botaniques, on a vraiment inscrit ce clin d'œil à la brasserie Ninkasi en rajoutant du houblon. Donc c'était dans la continuité de notre histoire de la brasserie Ninkasi. Ouais.
Et dans ce cadre-là, est-ce que tu utilises des houblons particuliers ou... Enfin, quand tu sélectionnes.
Dans notre recette classique de vodka et gin, c'est le houblon Saz qui a été retenu.
D'accord.
Et après, actuellement, on est sur des tests de 5 ou 6 houblons différents. Donc, on va être amené à changer le houblon ou à sortir des spiritueux différents avec d'autres houblons. Ouais.
Ok. Et j'avais une autre question, c'était est-ce que. Parce que peut-être naturellement, moi, j'aurais tendance à penser que vous pouvez aussi utiliser le houblon de manière indirecte. En peut-être distillant des bières ou ce genre de projet.
C'est un projet que j'ai en tête aussi depuis un moment. On va se pencher dessus dès qu'on aura un peu plus de temps. Ouais.
D'accord.
On est pas mal pris par le whisky, c'est la priorité numéro 1 évidemment. Mais
ouais.
Dès que j'ai une deuxième paire de bras, je me pencherai un peu plus là-dessus. Ouais.
D'accord, parce qu'on a vu par exemple quand il y a eu le Covid, il y avait des brasseurs qui avaient des bières qui étaient invendues et qui du coup se sont dit, bah tiens, peut-être on pourrait en faire une autre vie de bière ou quelque chose comme ça.
J'ai ça en tête avec pas mal d'autres projets. Ouais.
Ok. Et okay.
Après moi, à titre perso, je suis passionné de gin aussi, j'aime beaucoup les gins, il y a un renouveau du gin aussi depuis quelques années. Et je pense que si on arrive à ouvrir notre gamme à 2-3 jeans différents, ça peut être sympa de jouer sur des houblons différents, oui.
Ouais. Et est-ce que tu as d'autres usages du houblon typiquement, je ne sais pas, vous faites de la bière, il y a le résidu de l'ébullition. Est-ce qu'il y a des réflexions sur comment on peut recycler ça aussi, peut-être au niveau de la distillerie ou...
Nous, on ne valorise pas le résidu de houblon pour l'instant, on valorise les drèches. Qui sont donnés à des agriculteurs de la région, des éleveurs de la région, pardon.
D'accord.
Mais il n'y a pas de travail en cours sur le résidu des houblons, non.
Okay. Et toi, Philippe, t'es au courant de certains réemplois du houblon, peut-être post-brassage, post-distillerie ou...
Parfois, les brasseurs vont... On va mettre on va faire un houblonnage à froid, donc on ne va pas utiliser les capacités amérisantes du houblon. Et du coup, sur des bières, comme pour la levure, réutiliser les levures, on va parfois chercher à récupérer les houblons qu'on a mis en houblonnage à froid. Il y a eu très peu de libération, enfin une libération contenue, on va dire, de résine dans la bière. Et donc on va récupérer le résidu de matière verte pour essayer d'amériser à nouveau un brassin suivant. Après, ça demande de séparer assez facilement le houblon du reste des levures. Et il y a des problèmes de dosage, de poids de résine résiduelle dedans. Donc ça peut donner un boost. Et le houblon est une, quand même une c'est pas une commodité, mais c'est un produit agricole relativement bon marché, donc on s'occupe peu de recycler de ce côté-là. Là où en France on commence à avancer, c'est notamment sur toute la partie foliaire, donc des lianes, des feuilles, du houblon, qui sont en grande partie aujourd'hui, lors de la séparation des cônes avec la matière végétale, sont aujourd'hui broyés pour faire un compost ou de la méthanisation. Simplement, c'est un équilibre carbone et azoté relativement peu efficace, donc c'est pas un super compost. Donc du coup, il y a les filières, notamment chanvre, et qui vont s'intéresser à ces lianes c'est bien lignifié. C'est comme un bon bout de bois assez bien lignifié en fait. Et puis après, sur tout ce qui est partie feuille, on va commencer également à avoir des doctorats en France, un ou deux doctorats. Qui sont menés pour voir ce qu'on peut faire de cette matière. Donc on cherche toujours un peu plus à recycler là-dessus. Ouais.
Ghislain, tu parlais aussi de soft, non ? Vous faites des softs avec du houblon ?
Oui, depuis 5 ou 6 ans, on fait des softs. Donc on a une gamme qui a 4 produits maintenant, le cola, tonic, ginger ale et limonade. Donc les 4 sont différents en houblonnage. Par exemple, la limonade, on utilise le citra qui va très bien avec la limonade, qui a un côté agrume, très sympa, très frais. Donc voilà, ça permet de continuer dans cette lignée de clin d'œil à la brasserie. Ouais.
Ouais. Et dans le cola, c'est plus surprenant peut-être, non ?
Le cola, c'est très léger, ouais. C'est mosaïque.
Okay.
C'est très léger. Le cola, il y a cannelle, mosaïque et d'autres botaniques. Ouais.
Parce que le tonic, là, j'imagine, c'est le produit vers lequel tu vas le plus spontanément pour l'amertume, notamment, le côté agrume aussi.
Oui, surtout qu'il a été construit pour en pairing avec notre gin, donc
ouais.
Avec des baies de, enfin voilà, des baies de sancho, ouais, poivre rouge, etc. Ouais.
T'as le cocktail complet.
C'est ça.
Et j'ai une question. Ouais. Oui. Et du coup, ça te sert à approfondir les arômes ou à soutenir d'autres arômes ? Comment vous voyez la chose quand vous incorporez l'ingrédient houblon dans...
C'est vraiment pour aller en complément du produit. Par exemple, la limonade, ça a été évident, le citra à côté agrume, comme je l'ai dit.
C'est pour faire de la résonance, comme ça ?
La résonance, voilà, tout à fait. Après, il y a la gamme des cocktails dans les restaurants Linkasi qui est construit aussi autour de ces softs.
D'accord.
Par exemple, gin tonic, Moscow Mule, etc.
C'est ouais. Plus l'image globale Linkasi qui doit faire toujours écho brasserie.
Oui, tout à fait. Brasserie, ouais. Complément de nos produits, ouais.
D'accord. Une petite question pour toi, Philippe. C'est au niveau de l'interprofession, est-ce que tu vois une évolution de la base de clientèle du houblon, justement ? Est-ce que tu vois que ça se diversifie, que tu as de plus en plus de distillateurs qui viennent vers toi ? Ou pas.
Aujourd'hui, c'est pour l'instant encore naissant, en tout cas sur les distillateurs, mais il y a, de ce que je connais, de ma petite expérience, il y en a qui le font de façon historique. Et après, il y a un petit engouement qui se fait aujourd'hui, mais c'est encore très petit, en tout cas très sporadique, on va dire. Et au niveau de l'interprofession, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que globalement en France, il y a du houblon partout qui est cultivé aujourd'hui, avec des exploitations soit familiales depuis plusieurs générations, soit vraiment dans les régions historiques que sont les Flandres et l'Alsace, qui vont faire 10% et 85% de la production nationale, et les 5% restants de la production nationale sont répartis sur tout le territoire. Donc vous avez probablement un houblonnier agriculteur ou néo-agriculteur qui est là à côté de chez vous et qui fait la culture de cette plante. Donc c'est possible d'en trouver un peu partout. Ou si vous avez des productions vraiment réduite, mais là c'est un peu plus, c'est vraiment de l'expérimental et ça va changer de saison en saison. Vous pouvez aller faire votre cueillette sauvage également, mais là c'est plus dans le cadre d'interprofession.
Ghislain, petite question peut-être plus technique sur l'utilisation du houblon. Est-ce que entre le pelet et le frais, est-ce que tu utilises les deux ? Est-ce que un plus que l'autre ?
On a été amené à utiliser les deux, ouais, par contrainte ou par choix, par test. En fleurs, c'est quand même plus propre, je dirais. Propre. Je m'entends dans le sens où il y a plus d'étraction et on a des arômes qui sont plus nets, quoi.
D'accord.
Il faut savoir aussi que les pellets dans l'alcool sur fin ou l'alcool à très haut degré se dissoutent pas très bien en fait.
D'accord.
Donc en fleurs c'est optimal, oui.
Ouais, c'est plus, j'imagine, quand même plus léger en goût que le pellet qui est très concentré.
Ouais, après les pellets amènent un peu plus quand même d'amertume, on a trouvé à l'utilisation.
Ouais. Ouais, sur la différence produit, en fait, on va avoir simplement le pellet, à part quand il se dissout pas, on va avoir une meilleure surface d'échange entre le moule, le liquide dans lequel il est plongé. Et donc, du coup, la capacité amérisante va se réveiller beaucoup plus facilement mécaniquement, physiquement, que si tu l'utilises en cône. Ou si tu n'as pas d'agitation, alors je sais pas si tu as de l'agitation dans... Si c'est
pas dans nos alambics Chalvignac-Charentais traditionnels, mais dans notre nouvel alambic Honoré, ça sera le cas. Donc, il y a des tests qui sont prévus aussi dans les mois à venir. Oui.
Ah oui, un peu de.
Avec agitateur, oui.
Un peu de travail, du coup, de revoir les recettes, du coup, avec,
oui,
les,
tout à fait, oui.
Avec les cônes. Même avec les cônes, tu auras certainement une meilleure. Ou une autre extraction.
Oui, tout à fait.
Donc tu utilises ça en macération, enfin en infusion dans le pot. T'as pas de panier botanique par exemple pour l'extraction.
Depuis un mois, nos ouvres alambics honorés, si on a un panier dans lequel on pourra mettre des grands sacs énormes en nylon. Ouais.
D'accord. Donc l'idée c'est de mixer les deux méthodes.
Parce que le Spirit Steel fera 50 hectolitres.
50 hectos.
Oui, on a de la place. Okay. Ouais.
Bon, c'est pas mal. Ouais, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, Ninkasi a inauguré tout récemment une nouvelle distillerie à Tara, beaucoup plus grande.
Plus grande, plus belle, etc.
Tout ce que voilà. Donc c'est juste à côté de la brasserie ou...
C'est dans la même ville, c'est à 2 km.
C'est ouais. À 2 km, donc. Ouais.
Ok. Donc on garde nos deux alambics traditionnels, Charentais, à Repasse, donc Chalvignac, 25 et 15 hectolitres. Et deux alambics tout neufs, sous vide, Honoré SAS, 100 hectolitres et 50 hectolitres.
D'accord. Et le chai aussi, j'imagine, doit...
Le chai, pour l'instant, on a deux chais distincts où on a une capacité de 900 barriques par chai.
Ok.
Pour l'instant, on peut construire, on a de la place pour construire trois chais supplémentaires.
Et est-ce que tu prévois de vieillir, mettons, le gin?
Oui, pourquoi pas, c'est une idée
ou
aussi.
Ou la vodka, ouais.
Oui, ça fait partie des projets, oui.
Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Ouais.
Bonjour. Vous dites que vous avez commencé à utiliser le houblon au début dans vos spiritueux pour faire le trait d'union avec votre image de brasseur. Et là, maintenant, avec le recul, est-ce que vous le considérez toujours comme ce trait d'union ou comme une aromate à part entière qui a un vrai potentiel autant que
les deux, je dirais,
citrus.
C'est bien de se démarquer aussi, même sur la vodka, qui est un alcool quand même assez simple. Après, il peut y avoir différentes qualités de vodka, évidemment, mais c'est bien d'avoir ce clin. De sortir un peu du lot et d'avoir une vodka herbacée, quoi.
Okay.
Une vodka aromatisée.
Merci.
De rien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Philippe, je ne sais pas si on arrive à la conclusion, mais peut-être quelle perspective tu vois pour la filière houblon à plus ou moins court terme là, comme tu observes l'évolution un peu du marché? Des acteurs dans l'interprofession. Est-ce que c'est dans quelle mesure ça grandit, dans quelle mesure les problématiques RSE sont prises en compte aussi. Tu vois, tout à l'heure je posais des questions sur le réemploi, tout. Enfin, c'est très ouvert comme question.
C'est très ouvert. Merci. Je vais répondre sur les RSE.
Ouais.
Vous avez une politique RSE. Qui est en plein développement, qui est assez intéressant, enfin qui est assez intéressante. Je regarde pas souvent la télé. Hier, je voyais la télé, je voyais ces gens qui, ces communes, qui parlaient de ne plus chauffer autant les piscines et qui avaient réussi à faire 15% d'économie là-dessus. Et la question qui ressortait, c'était mais pourquoi vous le faisiez pas avant, si ça gêne pas les personnes qui vont nager? Et la réponse était, en fait, on ne faisait pas gaffe, quoi. Donc là, on est au début en train de se dire, faut qu'on fasse gaffe. Ça fait certainement des années, voire des dizaines d'années qu'on se dit qu'on doit faire gaffe à nos consommations, Et puis là, il y a peut-être certains stress qu'on traverse tous et toutes et qui font qu'on se pose ces questions. Donc là, dans le houblon, qui en brasserie est parfois un ingrédient important, mais compliqué et un peu laissé de côté parfois, on commence à se poser ces questions. Quand il y a des brasseries, il y a des houblonnières en face. Donc on est aussi dans un moment où on a eu cette croissance. Et je dis on a eu parce que là, on a tous bien attaché notre ceinture de sécurité et on traverse des belles zones de turbulence avec des adaptations que toute la filière doit faire. Et donc, tant sur les aspects de transport de vos marchandises, de nos marchandises, que sur l'aspect environnemental et social, on n'en parle pas trop, mais c'est un autre sujet. Enfin, c'est le même sujet. Sur le transport des marchandises et la façon dont on va cultiver, il y a des efforts qui sont déjà faits en France sur l'utilisation de produits phytosanitaires, en tout cas en houblon. Le reste, je ne connais pas. Il y a un développement du bio qui a été très prenant sur les 6 dernières années. On est passé de 18 hectares à plus de 210, je crois. Donc on a une explosion qui a suivi la tendance bio là-dessus. Et après, il y a la volonté, pour partie, de travailler plus avec des produits locaux. Et donc on a assez bonnes perspectives. Là où on a en houblon en France, on va avoir un potentiel de, au doigt mouillé, 900 tonnes. Excusez ma. On va avoir 850 à 950 tonnes de capacité de production. On va faire moins de 1% de la production mondiale. Et on reste voisin d'un pays, l'Allemagne, et puis certains pays de l'Est, qui sont de gros pays producteurs, et également les États-Unis qui sont un gros pays producteur. Et ce que je veux dire par là, c'est que on est confronté à une forte concurrence avec des prix de marché qu'on ne décide pas toujours. Mais on a les contraintes que nous, on s'impose en France sur le social, sur l'environnemental, etc. Donc après, il y a un choix et de la personne qui va acheter vos produits et de vous, de la façon dont vous voulez construire vos approvisionnements, votre filière. Donc il y a une réflexion stratégique à avoir et j'espère qu'elle va dans le sens local, en tout cas pour notre agriculture et également peut-être pour notre santé, parce qu'on essaye de faire les choses qui sont relativement naturelles, en tout cas en France, sur ces produits, sans citer le nombre de produits autorisés de traitement qui est relativement réduit comparé à d'autres pays. Et les taux de LMR que je ne maîtrise pas, mais qui ne sont pas si élevés que ça. Donc je ne sais pas si je... J'ai une question large, j'ai répondu ouvert. Dans la largeur.
Là, tu parlais de 900 tonnes. C'est quoi l'échelle quand tu parles de l'Allemagne à côté ou des États-Unis, t'as des,
un ordre. Un houblon produit en agriculture conventionnelle va produire 1760 kg à l'hectare. Ça a peut-être un peu augmenté. Et le potentiel allemand est à peu près de 20 000 tonnes.
D'accord.
On a une production mondiale de entre 55 et 66 000 tonnes. Ça a beaucoup augmenté sur la dernière décennie et ça commence à se réduire depuis le passage de cette récolte où 1 000 hectares ont été arrachés et ça ne suffit pas aux États-Unis. Donc on a arraché la France aux États-Unis. C'est pour en comparaison d'échelle, c'est pas mal.
Et tu le vois comme un argument de vente, le fait de sourcer localement et français, ou c'est pas du tout mis en avant, ou pas assez
Ça peut être un argument de vente, oui. Ouais. Ça dépend de la sensibilité de chaque consommateur. Je pense que même s'il y a un retrait sur le marché bio, sur les bières, désolé, je connais pas assez le gin, c'était un marché qui a été, selon l'agence bio, qui a eu des progressions de 20% pendant 2-3 ans, et puis il y a eu une baisse de 20% l'année d'après, là on est en 2021 ou 2022, donc ça secoue pas mal. Mais après, il y a le vrai fondement est d'aller plus sur une consommation locale au final, et ça se retrouve aussi dans la consommation. La problématique qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on peut avoir des entreprises naissantes. Et du coup, à l'échelle nationale, on peut, avoir des prix de marché un peu décorrélés.
Et toi, Justin, tu sources comment le houblon ?
Le houblon au niveau de la brasserie en général ?
La brasserie, la distillerie,
on fonctionne beaucoup avec Yakima. Et puis, comptoir du houblon, comptoir agricole. Et puis, voilà, quelques petites initiatives aussi qui sont portées par David, notre directeur de la brasserie. Essaye de replanter des houblonnières. Alors, je ne sais plus dans quelle région tu pourras. En Rhône-Alpes, mais oui, je veux dire. Ouais.
Ah, donc l'ambition, c'est peut-être d'avoir maîtrisé tout le circuit.
Oui. Voir du parcellaire. Non, je plaisante. mais oui, c'est actuel en tout cas, oui. Le local, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ?
Je continue, je ne m'arrête jamais. On a encore un peu de temps. C'est très important en fait de cet aspect filière. Le houblon, il se fait. Enfin, vous pouvez en mettre dans votre oreiller avec d'autres herbes pour dormir, c'est cool, mais ça fait pas vivre des agriculteurs. Donc, c'est toujours le transformateur ou la transformatrice qui va permettre qu'on fasse cette agriculture. Et elle se fait que si on porte attention à ces agriculteurs locaux. Enfin, chez Comptoir Agricole, par exemple, on a un historique qui commence à ne plus être récent, donc c'est super cool. On a eu une grosse coupure de contrat, je ne veux pas trop en parler, qui sur 80% des surfaces, une variété. Ça, on en parle souvent. Par contre, ce qu'on dit un peu moins, ça va être ce que ce partenariat apporte. Et c'est un peu la façon dont moi j'essaye de construire avec nos brasseries partenaires, c'est-à-dire quels sont vos besoins, comment on peut augmenter la qualité. La qualité chez nous, ça a été de mettre des frigos par exemple. C'est d'aller chercher tels et tels arômes pour vos houblons et écarter d'autres variétés. Par exemple, dans mon portfolio variétal, j'ai pas de menthe et de houblons qui font de la menthe et de la pomme. En quantité suffisante, ils sont à l'essai. Ils restent au stade d'essai parce que c'est pas le besoin. Donc on a besoin d'avoir la mise en place, comme tu disais Frédéric. L'idée c'est de contrôler en fait ces approvisionnements et puis d'étendre et puis de peut-être s'approvisionner en houblon localement. Oui, bien sûr, parce que c'est vraiment un microcosme et on peut pas on est très dépendants les uns des autres. Il n'y a pas de bière sans houblon, mais il n'y a vraiment pas de houblon sans bière non plus. Donc, et ça passe par un échange continu que tu as. Et pas seulement pour faire beau sur le papier, c'est vraiment... Il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans les brasseries, et des hommes et des femmes qui travaillent dans les houblonnières.
C'est peut-être à la marge du sujet, mais juste une petite question. Est-ce que, pour en profiter, est-ce que tu peux juste donner une vision très courte de la situation bio, pas bio, houblon bio, par rapport à la demande ? Et est-ce que la demande est là ? Est-ce que l'offre est là ? Voilà, juste en quelques mots, si tu peux dessiner le contour du sujet houblon bio en France.
La première houblonnière certifiée bio, ça date de 2011. Donc c'est relativement tard comparé, mais c'est folklorique le houblon. Et du coup, ça s'est développé, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on remerciera d'ailleurs les événements qui portent le bio et la bière un peu plus en avant. Ça a tendu à se développer en tout cas, le produit bière, après le produit distillation, tu le diras, ou soft. Et on sent quand même qu'il y a un ralentissement fort aujourd'hui. Donc la clé ici, c'est ni plus ni moins que le portefeuille du consommateur qui va ou pas continuer à se tourner plus vers le bio ou plus vers du local. Et ça dépend du delta prix. Là où notre principal débouché, pardon, c'est la brasserie à 99%. Là où les bières vont être vendues dans des magasins bio, on a un fort recul, notamment parce qu'il y a eu des ambitions de mailler le territoire avec beaucoup de magasins bio. de toute enseigne confondue. Quand la bière n'est pas référencée spécialement dans le rayon bio, mais qu'elle est, que c'est une bière bio qu'il y a dans le rayon bière, elle a moins cet aspect recul et elle maintient ses progressions comme avant. Donc c'est probablement durable. On va probablement d'ailleurs devoir rester, ou en tout cas toujours plus s'orienter sur du bio, ou sur une agriculture plus responsable. Il y a des tests qui sont faits aujourd'hui à travers la France. Et en Alsace, par exemple, on a ce qu'on appelle une houblonnière de rupture. On va être à côté de... On va être en plein milieu d'une forêt, près d'une rivière, et on va planter une houblonnière. Ou il y a des houblonnières qui poussent dans les arbres. Donc l'aspect bio, on le scrute à la loupe. Et aujourd'hui, et les brasseries et les négociants ont du stock de houblon bio en France, qui dépasse plusieurs tonnes. Quand il y a 2 ans, on était, pour ainsi dire, raide, c'est-à-dire qu'on ne produisait pas suffisamment de bio. Donc on est en train de nouveau faire un rééquilibrage régulier, comme ça arrive souvent dans les houblons.
Tu chiffrerais à quelle proportion entre conventionnel et bio aujourd'hui ?
La production ou le stock ?
Les deux.
C'est dommage parce qu'on avait une assemblée générale qui devait avoir lieu mardi et elle a lieu mardi prochain. Donc je n'ai pas les chiffres vraiment à jour. Donc je vais vous les faire avec ce qu'on a compté il y a 3 mois et les ressentis. En production, on va parler en hectares parce que la production est difficilement comparable. Ça va dépendre. Bio, on était parti d'une moyenne à 1000 à 1100 kilos hectares. Ça dépend de qui le fait, sinon ça peut tomber à 300-400 kilos hectares, comparé aux 1760 en conventionnel, même s'il y a des différences de variété de parfois 2 tonnes. Donc on va avoir plutôt des stocks autour d'une quinzaine de tonnes en bio, ce qui représente un peu plus de 10% de ce qui est produit. Ça va dépendre des acteurs également. Et après, en conventionnel, on a un stock beaucoup plus lourd en France, mais c'est duplicable sur l'ensemble des acteurs européens et américains. Avec, pour nous en Alsace, on va doucement vers une récolte d'avance, avec récolte 2018, 19, 20, et 21 et 22, que je peux compter dans mon frigo. Donc il y a du houblon.
C'est 90-10 en gros, tu me dis
90-10, ouais.
Ouais. Ok.
Il y a sur les 5% sur les 100, il y a 120 hectares plantés dans tous les départements hors région historique et ils sont à 95% de bio. Et chez nous, c'est 10-15% comme 15% pardon. C'est plus 10, c'est 15% de cette récolte.
Peut-être, ouais. Pour conclure, peut-être on a Théo de Brewing Theory qui peut nous présenter des softs qui contiennent du houblon, si j'ai bien suivi.
Merci. J'arrive complètement à la rage, je suis désolé, et en retard. Pour le salon, on s'est amusé à développer... Alors, pour vous représenter un petit peu l'entreprise, Brewing Theory, on est une agence de conseil en brasserie que j'ai créée il y a 3 ans. On travaille sur 4 domaines d'activité, la formation professionnelle, l'installation de brasserie, du dimensionnement jusqu'à la mise en service. On a un laboratoire de recherche et développement où on développe des nouvelles recettes de bière, mais aussi de soft et de boissons sans alcool. Donc tout ce qui va être diversification, innovation. Et on a aussi un laboratoire d'analyse pour faire toute la partie contrôle qualité. Et donc pour le salon, cette année, on est venu avec quelques boissons qu'on a développées avec nos clients. Et on a fait ici, je vais avoir besoin d'un petit serveur peut-être pour nous faire une petite dégustation. On a travaillé sur une eau houblonnée, ce qu'on appelle une hop water. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Très bien, je sens que vous êtes chaud.
Donc littéralement, eau houblonnée.
qui s'est dit eau houblonnée. Donc c'est tout simplement une infusion de houblon dans de l'eau qui vous donne une boisson qui est très fraîche, très rafraîchissante, qui peut se faire facilement en brasserie. Il y a quand même néanmoins quelques petites considérations techniques à prendre en compte. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait ça. La première étape, c'est de travailler l'eau, qui est très importante. Donc l'eau, on la filtre, notamment en passant à travers différents filtres, et notamment toute la partie charbon actif qui va venir déchlorer et enlever ce goût de chlore qu'on a dans l'eau. Et l'élément qui est hyper important, c'est de désaérer l'eau. On élimine tout l'oxygène qu'il y a dans l'eau pour éviter que l'oxygène oxyde le houblon et dégrade spécifiquement le houblon. Ensuite, on va travailler ici avec deux types de houblon. Là, spécifiquement, pour que ça soit plus facile à processer, on a travaillé avec des extraits. Donc, on a utilisé des houblons aromatiques américains sous forme d'extraits. Forcément. Mais bon, c'était aussi pour le rendre plus facilement mélangeable et éviter. Enfin, nous, ça nous a évité une filtration. Donc, on a utilisé un amérisant et un aromatique. Voilà. Donc, une utilisation à chaud, une utilisation également en dry hopping à froid. Et pour stabiliser tout ça, on a également utilisé un antioxydant pour éviter d'avoir donc, il y a un travail aussi sur le pH aussi pour stabiliser le produit. Voilà un petit peu le topo.
Petite question toute bête que j'imagine on te pose beaucoup, c'est qu'est-ce qui est la différence fondamentale entre une hop water et une bière sans alcool par exemple?
Alors la bière sans alcool, on part du process de fabrication de la bière classique, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'eau, des céréales, de l'orge maltée qu'on a concassée, du houblon. Et en l'occurrence, nous, les bières sans alcool qu'on développe, elles sont toutes faites par fermentation, donc on travaille également avec de la levure. Donc voilà. Là derrière, on va avoir différents types de process qui permettent de limiter au maximum la production d'alcool. Donc sur les bières sans alcool qu'on développe, on en a fait une à 0,8 et une à 0,3. On a quand même un petit peu d'alcool. Là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de fermentation. D'ailleurs, il n'y a pas de malt et il n'y a pas de levure. C'est juste de l'eau et du houblon. Donc c'est très rentable, ça ne coûte pas cher et c'est facile à produire. Une bonne façon de diversifier, et ça fait un soft qu'on peut servir en pression, qu'on peut servir en canne, qu'on peut servir en bouteille.
Et c'est catégorie toute nouvelle en France, j'imagine?
Alors c'est une tendance qui vient des États-Unis, qui a débarqué, je pense, depuis 2 ans en France, et qui, en général, fleurit au moment du printemps ou de l'été, quand il commence à faire très chaud, et qu'on a besoin d'un truc un peu rafraîchissant. Donc voilà.
Bah top. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être.
C'est un petit peu express, mais est-ce que vous avez des questions?
Le pH du produit fini, là, combien?
C'est une bonne question. Je n'ai pas la donnée en tête.
Okay. On en reparlera
plus. Si tu passes au stand, on en reparlera.
Voilà. D'autres questions ou avis sur la dégustation?
Qu'est-ce que vous en pensez?
Pourquoi finalement c'est pas carbonaté? C'est exprès, j'imagine, bien sûr, c'est une eau houblonnée.
C'est très légèrement carbonaté normalement. Ah. C'est peut-être qu'on l'a fait en labo hier et donc elle doit être légèrement pétillante.
Ah ok, d'accord.
Ouais, voilà. On a une R&D, on développe toutes les recettes et on a un laboratoire pilote. Donc c'est de la recherche et développement. Donc parfois on n'a peut-être pas non plus pile poil le cahier des charges industriel, mais on s'y rapproche fortement. Voilà.
Eh ben, je crois qu'on a fini pour la... Non.
C'est pas juste une question, c'est juste une remarque. Ce qui peut s'apparenter comme une limonade, mais sans le sucre. C'est à côté désaltérant et pas, au contraire, la limonade qui va nous pâter la bouche.
Exactement. À cause
du sucre. Donc c'est très intéressant.
Sans sucre, sans alcool.
C'est quoi la cible, d'ailleurs?
Là, la cible pour nous, c'est les développeurs de boissons qui veulent travailler avec nous sur des produits innovants. La cible, ça peut être les sportifs, ça peut être les enfants, ça peut être les femmes enceintes, ça peut être les gens qui veulent juste commencer leur apéro par quelque chose sans alcool, sans forcément que ça soit juste de l'eau ou une limonade très sucrée. Ça peut être ceux qui conduisent et qui ne boivent pas. Ça peut être juste pour le plaisir aussi, en fait, finalement. Pourquoi pas?
Ça peut être aussi un complément. Ça peut être aussi un complément pour le cocktail.
Ça pourrait aussi, effectivement. Ça peut être un bon ingrédient. On peut peut-être l'utiliser comme un tonique aussi.
Oui, voilà.
Sans sucre. Il y a de bonnes idées, ouais, effectivement. On peut peut-être en faire des glaçons. On n'a pas encore essayé, mais pour.
Là, tu as un bon équilibre amérisant et aromatique, je trouve. Est-ce qu'on peut imaginer aller jusqu'à des choses beaucoup plus tournées sur l'aromatique, justement pour avoir ce goût peut-être un peu plus fruité sans le sucre, Est-ce que cet équilibre est atteignable dans ce genre
alors,
de...
C'est possible. Je sais qu'on a fait des essais. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la biotransformation dans le houblon. Vous en avez un peu parlé ou pas encore? Absolument pas. Très bien. Un poil. La bi...
double liaison carbonée que j'ai pas bien expliqué, mais c'est à peu près ça. Mmh. Sur l'éthiol.
Donc, en fait, le principe de la biotransformation, c'est que quand vous démarrez la fermentation de la bière, donc du mou, sur les 2-3 premiers jours, vous avez des enzymes qui sont présentes dans la levure, qui vont interagir avec des composés aromatiques du houblon et qui vont littéralement transformer la molécule et développer un arôme de fruits tropicaux ou des arômes vraiment très forts, très puissants. C'est hyper intéressant. C'est un petit peu, je vous donne un secret de fabrication, c'est un peu comme ça qu'on fait les naipas. Et du coup, l'idée aussi, ça a été de travailler sur cette boisson-là avec des enzymes pour essayer d'aller, des enzymes spécifiques qui sont les alpha-glucosidases, je crois. C'est ça? Pardon? Amylaglucosidase, voilà. Donc c'est un essai qui a été fait. Alors on n'a pas non plus le matériel d'analyse au laboratoire qui nous permet d'aller faire la différence entre les composés aromatiques avant et après. Twister aroma, c'est ça. Donc on les a identifiés aussi, mais pour le moment, on n'a pas non plus mis le budget pour aller un petit peu plus loin là-dessus. L'idée, c'est qu'on ait travaillé la recette pour que demain, quelqu'un puisse la faire dans sa brasserie. Voilà.